Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. De l'off-road au menu de cette émission aujourd'hui avec notre spécialiste tout terrain, Guy, bonjour.
Bonjour la biche, en effet, un sommaire assez chargé aujourd'hui, comme d'hab d'ailleurs. On va parler d'un crossman de légende, Thorsten Allman, qui est suédois. Il était 4 fois champion du monde en 250. Et actuellement, il fait des habits pour les pilotes
américains. Il s'est recyclé dans l'habillage.
Dans l'habillage.
Dans le vêtement. Ouais.
Il est né en 1940. Hein, alors, ah ouais.
Tu vois, là, donc il a été 4 fois dans les années 60-70. Hein.
Ouais,
j'ai
voilà.
Vu ça sur Internet.
Et c'était un rival de Joël Robert. Grand rival, mais copain comme cochon, hein, tous les deux. Ensuite, donc c'est Antoine Legendre qui va nous parler de ce pilote. Il nous a fait 2 pages, j'espère qu'il ne sera pas trop long.
Alors Antoine Legendre, c'est de Motocross History. Hein.
Voilà.
C'est le site du motocross d'hier et d'aujourd'hui.
Ouais, exactement. Ensuite, écoute, on va faire un petit coucou à notre Gilou National, hein, qui a été au Grand Prix d'Europe. À Saint-Jean-d'Angély, c'était le Grand Prix de motocross. Donc il va nous parler de ce qu'il a vu, si les barrières n'étaient pas trop hautes ou les...
S'il a pu faire correctement des photos.
Oui, éventuellement, oui. Et puis si les publicités ne cachent pas la piste, n'est-ce pas? Parce que Gilou, il fait la chasse à ça.
Hein. Ouais, parce que Gilou, c'est aussi l'auteur de B-Motocross. Hein. C'est aussi le site qui a pour vocation de conserver en mémoire les historiques et les résultats des principaux événements qui génèrent l'histoire du motocross dans le monde.
Enfin, pas les principaux, tous les championnats du monde, ouais. Tous les classements. Sur... Ouais. Ensuite, nous allons partir faire un tour en Hollande pour le championnat du monde de course sur glace qui s'est terminé.
Oui.
Dimanche dernier. Ensuite, nous allons avoir Bertrand Salaville, qui est directeur de rédaction de Moto Verte et de d'autres revues tout-terrain comme le MX, l'Enduro, le VTT pour les vélos et exactement aussi. Alors, il a sorti un album pour retracer l'historique de Moto Verte qui a fêté ses 50 ans. Donc c'est assez rare qu'une revue dure aussi longtemps. Et ensuite, on retournera voir Gilou avec le Cross US, hein, qui suit régulièrement chaque dimanche presque à la télé. Et ensuite, quelques informations diverses sur le tout-terrain.
Très bien Guy, voilà, vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. À la technique, on salue notre pilote d'émission, Laurent. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. A tout de suite. Le tout-terrain au menu de l'émission aujourd'hui avec Guy Pilarzi. Nous avons Antoine Lejeune au téléphone.
Salut Antoine.
Oui, bonjour Guy, bonjour la Miche, bonjour à tous.
Voilà, tu es prêt à parler de Thorsten Allemann?
Oui.
Tu nous as envoyé quand même 2 pages, hein, ça met au moins 1 heure pour parler de lui.
Non, ça doit faire à peu près 10 minutes.
Ah, 10 minutes, ok. Pour la petite histoire, figure-toi que Thorsten Allemann, à l'époque, tu sais, il y avait l'écran Saint-Air en France, chose qui n'existe plus actuellement. Oui. C'était à Kassel, Thorsten Allemann y était champion du monde à l'époque. Alors il était venu, il y avait une Mercedes, une remorque, elle était pilote d'usine, hein. Il était tout seul. Alors voir un Suédois, pour moi c'était quelqu'un qui venait de Mars, parce que bon, on avait vu des Anglais, mais des Suédois jamais. Et alors, parce qu'après j'ai vu des Japonais, alors les Japonais pour moi ça venait de la... De l'ex-planète Pluton, j'avais jamais vu ça avec leur Suzuki, la première Suzuki. Enfin, toujours est-il que Thorsten Allemann, je le regardais, puis il était en train de démonter son moteur, de changer de moto entre les manches. Et il roulait, il avait gagné une manche. Il y avait Jeff Tewitsen, tu sais, le Belge qui était bon, il était bon, hein, Tewitsen.
Oui.
Et alors je le regardais, puis d'un seul coup, il me demande quelque chose en anglais, je pense. C'était de lui donner un coup de main à tenir sa moto pour mettre le moteur, tu sais. Alors écoute, ça m'a resté gravé, un champion du monde qui me demande ça.
De l'aide pour être mécanicien.
Voilà. Alors pour revenir à Thorsten Allemann, il a été quand même 4 fois champion du monde, 2 fois vice-champion du monde en 250. Toujours sur la marque suédoise Husqvarna. Il a participé au Trophée des Nations et au Motocross des Nations aussi, je pense, non?
Oui, mais un petit peu moins de réussite au motocross qu'au trophée, oui.
Alors, il a gagné à 37 pardon, Grand Prix, 67 manches, et comme j'avais dit, 4 titres de champion du monde.
Et de champion de Suède.
Et champion de Suède, en effet. Alors, au départ, lui, il est né dans une ferme à la périphérie d'Uppsala. D'Uppsala, c'est un circuit connu, hein, à côté d'un circuit de cross, et que son frère avait construit.
Oui, alors effectivement, ses parents avaient une petite ferme, il avait construit un petit circuit dans la propriété familiale, et du coup, comme son père, il avait un atelier de mécanique, il y a plein d'amis qui venaient faire réparer la moto, leur moto, leur tracteur, leur voiture. Donc du coup, il a vécu avec les cylindres, les pistons et les chaînes de toutes sortes en étant jeune. Et son frère après l'a emmené sur un circuit de vitesse à Edemora pour voir une course. Et il avait pu se promener dans les paddocks. Donc ça, c'est ses premiers contacts avec le monde de la moto. Et sinon, en motocross, ses débuts eurent lieu en 1951. Un jour, son frère et l'un de ses amis, ils se sont absentés de la maison. Ils avaient laissé leur moto. Et avec un de ses copains, il n'a pas hésité longtemps à vouloir emprunter la moto. Donc ils avaient observé la position des motos afin de les replacer à l'identique. Ils ont fait quelques tours, puis ils ont repositionné les machines. Mais ils avaient oublié de fermer la bougie. Donc quand son grand frère est venu, ils s'en sont aperçus et ils se sont fait attraper, quoi.
Ah d'accord. Alors c'était en 51.
Oui.
Alors maintenant nous sommes en 57, c'est la première compétition que Thorsten Allemann fait. En Suède, bien sûr, où il termine 5e.
Oui,
donc
c'était.
Ça lui a donné le cœur à l'ouvrage pour continuer dans ce sport.
Oui, donc en fait, au printemps 57, ils étaient une dizaine de copains à rouler régulièrement ensemble. Et Thorsten Allemann, il s'est dit, tiens, il pourrait participer à une compétition. Donc il a pris une licence et il s'est inscrit à un enduro qui s'appelait The Niemann Trophy. Au départ, le but était de finir le meilleur classé d'entre eux sans vraiment regarder les autres pilotes rouler, voir comment était leur style. Et à la fin de la course, il s'est dit qu'il n'avait pas du mal roulé et en se racontant chacun leur course, il s'est aperçu qu'il avait battu ses amis et finalement, il a terminé 5e.
D'accord. Alors ensuite...
Oui, pas de problème. Donc 2 ans plus tard, en 1959, il participe à son premier Grand Prix. Et il devient champion du monde 3 ans plus tard, en 1962.
Alors, ce premier titre, il l'a décroché, bien sûr, en Suède. Hein, c'était en quelle année? C'était en
1962.
62, ouais.
Et voilà, sur le circuit d'Enkoping.
Donc, malgré la pluie, et puis à sa surprise, il y avait 12 000 personnes qui étaient venues, enfin pas l'assister, mais l'aider à battre Jeff Smith à l'époque.
Oui, c'était un de ses plus farouches adversaires. En début de saison, Arthur Lampkin et Jeff Smith étaient sur BSA et ils pensaient pouvoir gagner le titre. Mais du coup, Thorsten Hammann, il s'est bien battu, et notamment contre Jeff Smith. En Allemagne de l'Est, il y a eu un petit incident de course, et sitôt le drapeau à damier, Jeff Smith, il avait foncé sur lui, donc il était assez énervé contre Thorsten Hammann. Et l'année suivante, Thorsten Hammann défend son titre et le renouvelle. Comme il m'avait dit, Vlastimil Valek, le Tchèque, n'avait pas eu de chance car il avait réalisé la meilleure saison de sa carrière. Il a gagné 8 Grands Prix, que des doublés et 19 victoires de manche, et une deuxième place.
D'accord. Il faut dire aussi que Thorsten Hammann, il était son plus grand rival, c'était Joël Robert.
Oui, ça a été vraiment son plus sérieux rival. Ils se sont bagarrés plusieurs fois l'un contre l'autre en course.
Alors, ils ont souvent roulé roue dans roue. Alors, une fois, c'était Hammann qui gagnait, une fois, c'était Joël. Mais ils étaient quand même copains comme cochons, parce que il y avait une émission de la RTBF qui avait réuni tous les anciens pilotes, à l'époque. Il y avait Joël Robert, et Thorsten Hammann était venu pas le féliciter, mais il était présent à cette émission.
Oui, il avait été invité, oui, je l'ai vu il y a plusieurs extraits qui sont disponibles sur les réseaux, oui.
D'accord.
Donc effectivement, après ces deux titres, il y a deux années sans titre, 64 et 65. Donc effectivement, il tombe sur Joël Robert en 1964. Puis après, Victor Arbekov en 1965. Alors cette année-là, il termine ses études d'ingénieur, donc il était un peu moins assidu à l'entraînement, et il a terminé quatrième derrière Arbekov, Robert et Dave Biggers. Il avait quand même remporté deux Grands Prix en fin de saison.
D'accord. Alors l'année suivante, en 66 et 67, il revient sur le podium avec deux titres.
Oui. Effectivement, ses études sont terminées, donc ça marque son retour sur le devant de la scène. Alors, il remporte les deux titres avant la dernière épreuve, avec sur les deux années cumulées, 10 Grands Prix gagnés contre 9 à Joël Robert et 7 aux autres pilotes. Ça rejoint ce qu'on disait juste précédemment, effectivement, contre Joël Robert, ils ont vraiment été rivaux en course, avec des luttes fantastiques. Des fois, les courses se sont terminées à moins d'une seconde l'un contre l'autre, et même ils étaient des fois côte-côte lors des courses. Du coup, si le titre de 1966, il est assez facilement décroché en termes de points d'avance, celui de 1967, il est vraiment serré. Il n'y a que deux points nets qui séparent Joël Robert de Thorsten Hammann.
D'accord. Ça s'est disputé en Autriche, le dernier Grand Prix.
Alors c'est peut-être celui de 1968 que effectivement Thorsten Hammann perd. Effectivement, je pense que c'est plus celui-là dont tu parles.
Ah d'accord, ok.
Parce que effectivement, Joël Robert prend sa revanche en 1968 et le titre se joue lors du dernier Grand Prix. Ils étaient à égalité avant le départ du dernier Grand Prix. Ils avaient gagné chacun 5 Grands Prix et 2 deuxième places. Ils avaient 52 points nets tous les deux. Et donc les deux pilotes abordent la dernière course coude à coude à Lohnsdorf en Autriche, et celui qui finira devant l'autre sera champion du monde. Malheureusement, en première manche, Thorsten Hammann il eut un problème de avec son pneu arrière, et il se fit remonter par Joël Robert.
Voilà. Alors Thorsten roulait toujours en 250, rarement en 500, hein.
Oui, effectivement, l'usine Husqvarna a toujours souhaité qu'il court en 250. En 500, il y avait Rolf Tiblin qui était présent. Par contre, il a couru en 500, mais que en tant que membre de l'équipe suédoise au Motocross des Nations.
Voilà.
Mais il a jamais eu de chance. En 63, il menait la finale, mais sa moto s'est arrêtée à cause d'eau dans l'allumage. En 1966, il menait le Motocross des Nations à Rémalard en France quand sa chaîne s'est cassée. Et en 1967, à Markelo, il se battait avec Paul Friedrich, l'Allemand de l'Est, pour la victoire. Et du coup, ils allaient mettre un tour au compatriote de Paul Friedrich, mais celui-ci s'est déporté l'a coupé en deux, provoquant une grosse chute.
Ouais, ça fait penser à quelque chose, cet accident, n'est-ce pas, avec Falta et à l'époque avec Moussaïev.
Oui, effectivement. Peut-être pas dans le même esprit, mais...
Non, bon, on ne sait jamais.
Oui, en revanche, effectivement... Ah bah vas-y.
Alors après ces bonnes courses, enfin ces titres, l'usine Husqvarna l'envoie aux États-Unis.
Oui, effectivement, Husqvarna voulait se faire connaître aux États-Unis, donc l'usine avait décidé d'envoyer Thorsten Allmann. Pensant que lui c'était une bonne idée, il s'est dit que ça pourrait être une bonne opportunité pour s'y rendre. Il n'a reçu l'accord de l'usine que 3 semaines avant le décollage. Et alors il avait déjà voyagé en avion, mais pas aussi loin de l'aéroport de Stockholm. Et en plus, il devait faire qu'un dixième de celui de Los Angeles, donc ça l'avait un peu impressionné au départ. En plus, à l'arrivée, il était un petit peu perdu parce que il devait contacter Eddie Sondheim, qui était l'importateur Husqvarna aux États-Unis. Et Dye n'était pas au rendez-vous. Effectivement, Thorsten Allmann, il avait un jour d'avance.
D'accord.
En fait, l'usine Husqvarna, elle n'avait pas pensé au décalage horaire, donc elle avait prévenu qu'il arrivait tel jour et les Américains le lendemain.
Ah, d'accord. Bon, enfin, il s'est pas perdu.
Non, finalement, il a pris un autre avion pour aller à San Diego et il n'a pas pu atterrir à cause du brouillard. Et suite à cette arrivée mouvementée, après quelques jours de repos, il était temps de faire ses débuts en course sur le sol américain. Alors au début, au moment de quitter la Suède, il avait l'autorisation de la part de la fédération qui contrôlait, tu sais, tous les pilotes, leurs engagements. Il avait l'autorisation que de faire quelques courses, mais après ils lui ont dit tu pourras courir là où tu souhaitais.
D'accord.
Donc il est allé au nord de la Californie pour disputer une course à Corriganville. C'était la première fois qu'il voyait un désert et ça l'avait beaucoup fasciné. Il se sentait en fait comme dans un autre monde. Quand les pilotes se sont dirigés vers le départ, la pluie a commencé à tomber fort. Alors comme il se croyait que la Californie était très ensoleillée, il avait emmené que quelques t-shirts dans ses affaires, donc il s'est retrouvé un peu nu. Il n'avait pas de vêtements de rechange. Et donc arrive le début de la course. Sur les lignes de départ, il y avait environ 200 à 250 pilotes, mais sa moto n'a pas voulu démarrer au premier coup de kick. Donc il s'est retrouvé bon dernier. Il s'est dit que c'était un peu raté pour faire de la publicité pour Husqvarna pour cette course. Mais qu'importe, il s'est dit, allez, je vais quand même faire la course. Il a remonté tous les pilotes sauf un après quelques tours.
Et pas n'importe lequel.
Non, pas n'importe lequel. donc il s'est c'était Dickmann, le fameux pilote BSA. Malgré tout, il arrivait à voir les traces devant lui et finalement, il l'a doublé dans les 3 derniers tours.
Comme quoi, Antoine, kicker un coup, c'est important.
Tout à fait. Même là, s'il a kické plus de fois.
Alors, à son retour des USA, l'usine lui a offert un fusil comme cadeau. Pourquoi un fusil alors?
En fait, parce que Husqvarna, au début, c'est une usine qui fabriquait des fusils.
Des fusils, d'accord. Alors, on parlait des États-Unis et maintenant, on va parler aussi le rideau de fer, parce qu'il a été courir en Union soviétique et puis c'était toujours un voyage toujours un peu spécial. Quand on traversait les frontières, il fallait avoir de la patience pour obtenir les visas, par exemple.
Oui, effectivement, il se souvient que tous les pilotes étrangers qui devaient participer étaient accueillis à la frontière, où ils devaient rencontrer plusieurs membres du motoclub. À ce moment-là, les difficultés commençaient aux douanes, parce que les douaniers prenaient des heures et des heures pour accorder les visas, vérifier l'argent que les pilotes déclaraient, parce qu'ils avaient, comme ils avaient fait plein de courses en Europe, ils avaient des devises de chaque monnaie, et il fallait aussi contrôler toutes les affaires. Il voulait tout savoir sur la moto, le numéro du moteur, les cadres, le nombre de pièces de rechange. Il arrivait que certains pilotes aient oublié de déclarer de l'argent dans une monnaie, ils n'hésitaient pas à bloquer 1 ou 2 heures de plus pour retrouver la trace de l'argent dans les valises. Et malgré ces tracasseries, il a quand même remporté 3 grands prix et il s'est rendu sur la place rouge.
En moto?
De Moscou. Oui, non, en voiture.
Ok. Il parlait aussi de ses circuits préférés. La Imola, Perlefontaine, c'est en France. Sabadell, oui. c'est aux USA.
C'est en Espagne, Sabadell.
En Espagne, oui.
En Espagne, oui. Donc, effectivement, Imola, c'est un de ses circuits préférés, notamment le Grand Prix d'Italie en 1964. Ça reste un des moments forts de sa carrière. Avec sa Husqvarna moins performante que les CZ sur le circuit, il a réussi une belle remontée en première manche. Depuis le peloton jusqu'à la quatrième place. Puis en seconde, il a quand même doublé Joël Robert et Igor Grigoriev pour remporter le Grand Prix. Oui.
D'accord. Alors, bon, le moment de la retraite arrive et puis il se lance dans les affaires aux États-Unis.
Oui, il a commencé par l'importation aux États-Unis de pantalons de cuir à l'ancienne.
C'était pas la marque Co.
Alors là, je sais pas. Ça, je sais pas.
Ça me revient, mais c'est oui. Co. Ouais, d'accord.
Puis les Américains, qui sont devenus les acteurs incontournables du motocross, ont voulu leur propre look, leur propre équipement et leur propre identité. Donc du coup, Allman Racing a continué à se développer pendant cette période et a introduit sur le marché des produits innovants, notamment la Protection Collection. Et à part le motocross, il est aussi devenu distributeur exclusif en Suède pour Yamaha de moto, cyclomoteur, motoneige, moteur de hors-bord. Parallèlement, il était aussi importateur exclusif des motos KTM, de VTT et de vêtements de ski Scott, les casques Bell et Giro. Et il a même été concessionnaire Volvo dans la banlieue de Stockholm.
D'accord.
Et pour les amateurs de motocross, il est également connu pour avoir développé avec Sten Lundin, un autre champion du monde suédois,
ouais, la fameuse
Yamaha,
ouais. HL500. Ouais.
HL500 pour Allman Lundin, 4 temps, qui a été piloté par, tu vas me le dire,
Bergaberg, un autre Suédois, qui avait gagné, je crois, le Grand Prix du Luxembourg avec cette moto. Hein.
Voilà, oui.
Ou c'est Bultaco, enfin, je ne me rappelle plus. Maintenant.
Mais je pense qu'il a gagné une manche, effectivement, je crois que c'est Kimi Kolati et le Grand Prix, mais lui gagne une manche qui était assez extraordinaire.
Alors, bizarrement, ses habits, les habits qu'il distribue aux USA, pour les appeler, il les appelait Thor. On ne pouvait pas mieux faire, quoi.
Effectivement, pour un Suédois, je crois que c'est une divinité du feu ou du...
Ouais, c'est... Enfin, c'est pas un dieu, mais c'est une divinité, comme tu dis.
Oui, suédoise.
Antoine, on a passé un agréable moment.
Plus que 10 minutes, Antoine.
Plus que 10 minutes, hein. Et on n'a pas, tout dit. Hein.
Mais on peut retrouver, Antoine, tes propos sur Motocross History.
Oui,
c'est le site Motocross d'hier et d'aujourd'hui. Hein.
Voilà, c'est ça, oui, www.motocrosshistory.com. Et effectivement, il y a l'interview de Thorsten Landman est en deux parties, tellement il y a deux choses à raconter.
Et il y a des photos.
Tout à fait.
Voilà.
Et dernier point, il était encore présent l'année dernière à la distribution des prix du Grand Prix de Suède. Hein. On le
régulièrement,
malgré
oui,
ses 85 ans.
Oui, régulièrement, il est invité avec Håkan Andersson aussi.
Oui, c'est ça. Et puis plusieurs d'autres pilotes suédois. Hein.
Les légendes.
Les légendes, comme tu dis. Antoine, à la prochaine. On te remercie.
À bientôt. Bon dimanche.
Bon dimanche.
Allez, salut.
Salut.
Au revoir.
Ah, t'es content.
Désormais, c'est ton indicatif, Gilou, ça. Ce sera.
Ah bah oui.
Quand on entend ça, c'est forcément Gilou après.
Ouais.
Voilà. Ah, j'aime bien, oui. Parce que ça fait le lien avec l'actualité du jour, et puis voilà, quoi.
Ouais, voilà, passé, avec Thorsten Allemann, ouais, justement.
Voilà.
Salut, salut Gilou.
Donc, salut,
tu es revenu de Saint-Jean d'Angély, pas couvert de boue, d'après, j'ai vu ça à la télé. Pourtant, oui. À un moment donné, on se demandait faire un motocross si près de la mer, enfin, près de la mer, du côté de La Rochelle, la pluie peut arriver, ou bien le froid aussi. Alors, comment ça s'est passé?
Alors écoute, c'est vrai qu'on a eu un temps moyen à partir de, en gros, samedi après-midi, hein, mais c'était moins, si tu veux, c'est annoncé de la flotte le vendredi, samedi, dimanche, toute la journée, tout le temps, tout le temps. Ça n'a pas été le cas, c'est déjà une bonne chose, et le vendredi c'était impeccable, le samedi jusqu'au milieu d'après-midi c'était impeccable, puis après il y a eu des pluies, et puis il y a eu aussi, après il faisait pas bien chaud, hein, le dimanche, mais bon, on était sur place, c'était, il y avait quand même du monde, hein, j'en ai discuté un petit peu avec Jean-Marie Boissonneau, a priori il y avait 10 000 entrées payantes, bon, ça leur permet de 10 000 entrées payantes pour le Grand Prix à cette période de l'année avec cette météo, et puis en plus il y avait quand même la concurrence avec Ernée qui va arriver au mois de mai. C'est vrai que de Grand Prix en France, bon, les gens font des choix après.
Gilou, c'est le seul pays, la France, où il y a deux Grands Prix?
Non, 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 non.
Ah non, 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 bah non, tu vois, par exemple,
le calendrier, hein,
ouais. Je prends l'exemple.
Qui a été imprimé par quelqu'un, coup, mais les dates, c'est Guy, hein.
Ouais, ouais, mais si tu veux, la biche. L'Italie a fait jusqu'à 4 Grands Prix, la même année, ouais. au moment du Covid.
Voilà, tout à. Ouais, mais enfin, là, c'était particulier parce qu'en fait, c'était pour éviter que les teams se déplacent. En plus, il y avait des changements de règlement, enfin, de règles qui venaient des États. Hein, alors, tout était interdit, donc ils sont restés sur place, etc. Mais enfin, c'était vraiment exceptionnel, la période Covid.
Ouais. Voilà. En Italie, je vois qu'il y en a deux qui se suivent, là.
Ouais. Ouais, alors en ce moment, bah, toi par exemple, ce week-end, aujourd'hui c'est le Grand Prix ce week-end à Trentino, donc en Italie, et la semaine dernière c'était en Sardaigne, en Italie également. Et ce qui est marrant, c'est que ces deux Grands Prix, ils ont comme label, il y en a un, c'est le Grand Prix de Sardaigne et l'autre le Grand Prix de Trentino. Hein, c'est deux Grands Prix d'Italie, mais ils n'ont pas le nom de Grand Prix d'Italie. Hein, je pense que ça vient des partenaires, en fait, parce que ce sont les régions qui doivent aider pour l'organisation. Donc, du coup, ils donnent le nom à l'épreuve des partenaires, quoi, finalement. Voilà, c'est pour le tourisme, finalement.
Pour revenir à Saint-Jean,
officiellement. Voilà.
Pour revenir à Saint-Jean d'Angély, la piste, oui. elle était bonne, hein, elle était pas boueuse.
Non, la piste a bien tenu, et puis bon, ils ont beaucoup communiqué sur les travaux et transformations qui ont été faites sur le circuit, notamment sur la partie, alors qu'on est face au circuit, je dirais sur le coteau et face au circuit, sur la partie de droite, vraiment le haut du circuit et la partie de droite, ça a été refait, et je dois reconnaître que c'est du bon boulot, parce que au niveau visibilité pour le public, c'est intéressant, et ça a été bien pensé, quoi. Vraiment sur le plan motocross, tu vois un petit peu les passages, etc. De même que là, il y a une montée sur le côté gauche avec, ça fait comme des vagues, qui était assez technique aussi. Donc vraiment les travaux qui ont été faits à Saint-Jean, c'est très positif. En plus, les travaux qui ont été faits sur le côté droit, autour du circuit, ils ont conservé les petites barrières. Donc, tu sais que ça, c'est quelque chose que je surveille particulièrement. Donc, c'est du bon boulot. Tout était parfait, à part le dimanche où ils ont mis au bout de la ligne droite une publicité, en plus c'est la fédération, une publicité sur tout le virage.
C'était bien, Gilou, que tu allais nous parler de pub.
Ah ouais, non mais attends, ils ont mis, que le dimanche, hein, ça a été mis, tout le bout de la ligne droite et le premier virage, les pubs de la Fédération française, voilà, ils ont fait ça avec un véritable mur qui faisait quasiment 2 mètres sur toute la longueur,
ah oui.
Ça nous a privé du premier virage qui va vers le hole shot, quand même un moment phare dès que la grille se baisse, quoi. C'est un moment assez sympa, et ben voilà, merci, hein. Donc je leur ai signalé quand même, voilà, moi quand quelque chose un truc qui me plaît pas, je le signale, et quand c'est bien, je le dis, quand c'est pas bien, je le dis également. Donc voilà, ça c'était le côté négatif. Mais enfin, c'était, on a assisté quand même à un bon Grand Prix, et comme tu disais, malgré la météo, le circuit a bien tenu, donc c'était des courses tout à fait qui se sont déroulées normalement. Tout à l'heure, on parlera des États-Unis avec un Supercross qu'il y a eu il y a 8 jours. Là, c'était une gadoue, hein, c'était ouais, plus ouais, Supercross, quoi. Donc là, non, le motocross à Saint-Jean, ça a bien tenu. Bon, c'est vrai que c'est aussi un endroit un peu venteux, ce qui fait que ça sèche assez vite. Et puis voilà, c'était parfait, quoi. Moi, c'est un petit peu froid, tout, mais enfin, on était quand même un petit peu tôt dans la saison, hein, mois de mars.
Saint-Jean, c'est une piste visible, hein, public.
Oui, c'est, je pense que c'est le circuit qui a le plus de visibilité en France pour les grands prix. Pour le public, avec Ernée, c'est un peu la même configuration, hein. Mais disons que Saint-Jean, on voit vraiment, vraiment tout, et c'est quand même agréable. Bon, il y a l'histoire des grillages, mais ça, j'en ai marre d'en parler, donc voilà.
Grillage et puis les panneaux, mais toi, t'es
alors,
grand,
les panneaux,
tu mesures
les panneaux, ils
presque
2
mètres. Toi, tu peux
ils ont
voir.
Fait des efforts en les couchant un petit peu, en les mettant à, tu vois, par exemple, à 45 degrés d'inclinaison, ce qui fait que c'est moins haut pour le public, quoi.
Tu vois, Gilou, ça sert quand même, hein, de faire des remarques quand même, hein, finalement.
Ah ben, en plus, j'ai le privilège de pouvoir en parler à David Longo, donc c'est un sérieux privilège, et tu vois, je lui fais part des remarques, des choses. Alors après, il en tient compte, il n'en tient pas compte, hein. Je suis pas non plus, je n'ai pas la science infuse, hein. Voilà, je lui fais part des choses que je ressens. En plus, moi, j'ai cet avantage quand même d'être à la fois public et un petit peu le pied dans le côté professionnel, le côté des personnes responsables. J'ai des contacts vraiment avec tous les dirigeants, donc je peux leur dire des choses peut-être qui ne remontent pas systématiquement jusqu'à eux, quoi. Puis voilà, on voit le résultat, ben, tant mieux. Si ça vient d'eux juste, ben, tant mieux. Si ça vient parce que j'en ai parlé, ben, tant mieux aussi. L'essentiel, c'est que ça soit un petit peu mieux pour le public, quoi. Voilà.
Ok, Gilou, on va parler des courses à Saint-Jean-d'Angély.
Oui. Oui.
Alors, malheureusement, avec Maxime Renaud, c'est notre chouchou. Ici à nous, parce que c'est un gars du nord des Hauts-de-France. Il a abandonné en première manche.
Non.
En deuxième manche, il n'est pas parti. Ouais, voilà.
Alors, ben, disons que il sera présent déjà. Là, ce week-end, il est présent à Trentino. Hein, donc, c'est déjà la bonne chose. Mais bon, Maxime, c'est, de toute façon, les blessures, on le sait. Hein, ça fait partie, malheureusement, des
aléas.
Du motocross. Il y a, je sais pas si vous avez écouté, mais on a entendu parler beaucoup de rugby avec Jabal qui avait des pertes de mémoire, qui se rappelait plus des compétitions qu'il avait fait au niveau du rugby à cause des chocs qu'il a reçus à la tête, etc.
Oui,
ils en parlent, ils ont fait des émissions là-dessus sur les blessures et tout. Bon, moi j'ai écouté ça et je me dis, mais attends, en motocross, nous c'est un autre niveau au niveau des blessures. Ça fait pas, c'est vraiment dans le motocross, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que maintenant ça va beaucoup trop vite, et voilà. Alors Maxime, effectivement, bon, ça n'a pas été ça, mais il est à Trentino. Ça se trouve aujourd'hui, ça sera un autre qui va se blesser. C'est terrible, mais malheureusement, c'est un peu comme les panneaux de publicité. On sait qu'il va y avoir un pilote blessé. C'est ça qui est terrible. On sait qu'il va y avoir des blessés. Et toute la saison est gérée comme ça, avec des compétitions aux États-Unis ou en Europe pour le mondial. Et bien voilà, ça fait partie du jeu. Alors, hein. C'est bête de dire ça, mais c'est comme ça. On a eu quand même des pilotes qui étaient présents. Hein. On a eu Romain Fèvre, par exemple, qui est monté sur le podium, qui a fini deuxième.
En effet, ouais.
Ouais. Ça, c'est en MXGP. En MX2, on avait Bénistan, qui a fini troisième, qui était sur le podium. En 250, il y avait l'Europe aussi. On avait Adrien Petit, qui pareil, deuxième.
Deuxième.
Et puis en 125, on a quand même eu une Marseillaise avec Manofort, qui a remporté l'Europe 125 à Saint-Jean-d'Angély. Donc c'est quand même, on a, c'est ça l'avantage en France, c'est qu'on a des pilotes dans toutes les catégories capables de gagner. Alors, des fois, c'est du ponctuel, des fois, c'est les championnats, mais on a vraiment toujours de la relève qui est là. On a un vivier qui est intéressant quand même. Hein. Donc, ça prouve qu'il y a du bon boulot de fumée au niveau fédéral, même si là, ils ont fait une connerie avec les panneaux. Mais bon.
Ouais, mais ça. Il faudra que tu les enlèves la nuit.
Oui, mais bon, moi je trouve quand même que on a la chance en France d'avoir un motocross qui tient la route. Hein. Toi, on parlait de la 300e victoire française en Grand Prix avec Romain Fèvre. Il a eu la 300e victoire en Grand Prix d'un Français en Sardaigne la semaine dernière. Bon. Depuis Daniel Péan en 77, voilà, qui avait gagné le premier Grand Prix. On doit avoir, je crois que on doit être à 35 ou 36 pilotes qui ont gagné des Grands Prix en championnat du monde. Mm-hmm. Ça prouve que ça dure dans le temps. On est le seul pays où on a des pilotes qui courent dans toutes les catégories, en championnat du monde, championnat d'Europe, ou aux États-Unis, dans les deux catégories, on a des pilotes capables de gagner, et puis des pilotes titrés. Voilà, c'est ça parle, ça. Là, c'est du factuel. Hein. On ne peut pas dire réduire les choses non plus d'une façon négative. C'est très positif ce qui se passe pour le motocross français.
Ok, ok. Ouais. Gildou, le prochain Grand Prix, c'est le 25 mai, hein, Ernée.
Hein, alors, le deuxième Ernée, Grand Prix de France. Oui.
Hein. Deuxième
Grand Prix. Tout à fait, Ernée.
Et Guy m'a dit que les tronçonneuses seraient interdites.
Alors, elles ont été interdites à Saint-Jean-d'Angély.
Alors, les tronçonneuses, il faut expliquer aux auditeurs, mais on parle de moto, de cross, et maintenant on parle de tronçonneuses. Dis-nous pourquoi on parle de tronçonneuses sur les... Alors ça, on ne voit que ça que dans le cross, hein, dans le motocross.
Oui, alors ça fait partie de l'ambiance de quelques tronçonneuses comme ça. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, c'était, non, il y a maintenant 2 ans, on est à Ernée, pour le motocross des nations.
Oui.
Là, il y avait des tronçonneuses, mais il y en avait beaucoup.
Il n'y a pas la lame, hein. Attention, hein. Il n'y a que le moteur.
Ah non, c'est juste pour faire du bruit.
C'est si pour faire du bruit, hein.
Ouais, ouais, alors tu sais, on a les speakers, on a notamment Francis Magnanou qui est au micro, ouais, qui dit faites du bruit, voilà,
ah bah oui, bah,
etc. Donc les gars, ils viennent et avec des tronçonneuses. Mais le problème, si tu veux, c'est quand quand on se retrouve avec 3-4 tronçonneuses sur le circuit, bon, ça va, ils font pas marcher ça tout le temps. Mais si c'est au lieu de 3-4, c'est peut-être 30 ou 40, là, ça n'arrête pas et c'est assourdissant. Ouais. Parce que bon, on a bruit, on peut dire on a le bruit des motos, du motocross et 4 temps. Mais finalement, c'est lorsque les courses se déroulaient, qu'il y avait moins de tronçonneuses, eh bien, ça soulageait.
C'est quand même partie folklore. Hein, tu veux...
Oui, mais si tu veux, après, c'est toujours pareil, c'est l'excès. Tu vois, c'est comme celui qui va arroser, boire un verre, 2 verres, et puis celui qui va picoler, voilà, qui traîne par terre. Bon, ben, après, c'est l'excès. Ernée, je ne sais pas, peut-être qu'il
y a... On ne sait pas si les gens vont laisser rentrer les spectateurs avec des tronçonneuses à l'entrée du circuit, on ne sait pas.
Ouais, mais tu sais, ça, c'est, si l'organisation dit OK pour les tronçonneuses, ça sera la porte ouverte et puis il y aura ça.
Bon, après ça, c'est un détail. Hein,
c'est un détail, mais si tu as un gars à côté de toi qui fait tourner la machine, ou 2 ou 3 qui défont,
j'ai plusieurs fois, je suis allé à Ernée, hein, effectivement, j'ai eu des gens avec des tronçonneuses juste à côté de moi. Hein.
Oui, ben voilà.
Évidemment,
mais si ça tourne, j'adhère
avec tes propos parce qu'effectivement, c'est l'excès qui est embêtant, quoi.
Et j'en ai discuté avec pas mal de personnes. Et en fait, les officiels, ils se mettent pas au niveau du public. Eux, ils sont dans des endroits où ils vont, par exemple, dans la tribune où il y a la fédération. Hop, ils vont dans cet endroit-là, donc ils sont un peu à l'écart. Les journalistes, ils sont sur le circuit, donc ils sont quand même à l'écart. Alors, il y a un moment, c'est que le public. Alors moi, je suis pas. Je dis, mais attends, je discute avec d'autres gens autour de moi, je dis, oh là là, ils nous cassent les oreilles à force avec ça, c'était plus supportable. Bon, nous, on veut que le motocross reste aussi convivial, quoi. Oui. C'est tout. Mais enfin, bon, il y a de l'ambiance, c'est parfait, on est les premiers à crier après les pilotes pour les encourager, tout ça. Qu'il y ait quelques tronçonneuses, moi, ça ne me dérange pas. C'est l'excès. Oui. Une fois que, après, c'est plus supportable. Je connais des gens, ils sont repartis
bien
à cause
sûr.
De ça.
Oui. Ok.
Voilà. Alors,
merci Gilou.
Ah bah non. Moi, je donne mon avis. Après, mais tu sais, ils transmettent des fois. Là j'ai levé encore un problème, par exemple, sur la distribution des points en Grand Prix. Tu sais que si on garde le résultat, le dernier résultat, celui de Sardaigne qui s'est produit, si on reprend entre les qualifications où ils donnent des points et le Grand Prix où on donne des points, je peux te dire que Romain Fèvre, supposons que ce résultat qu'on a eu au Grand Prix de Sardaigne se déroule sur tous les autres Grands Prix jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire les 16 Grands Prix suivants. Donc Romain Fèvre vient de gagner le Grand Prix dans Sardaigne, il a marqué des points. Eh bien, s'il remportait tous les autres Grands Prix, c'est-à-dire en fait 17 Grands Prix sur les 20, il ne serait pas champion du monde, il finirait que 3e.
Ah bon.
Voilà. Mais... parce que uniquement à cause des qualifications, parce qu'on donne des points en qualification. Et on donne des points en qualification qui comptent pour le championnat du monde, mais qui ne comptent pas pour le Grand Prix.
Ah oui.
C'est-à-dire que si tu gagnes ta course de qualification, tu marques 10 points. Ça se déroule le samedi.
C'est un peu les courses sprint en Grand Prix.
Alors ça devient plus compliqué que le Superbike, hein, parce que alors là, le Superbike, maintenant, il faut comprendre quelque chose. Hein.
Voilà. Ouais. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon bah voilà, on est content. Romain a gagné, il a gagné. Voilà. Ok. Mais si on regarde sur le week-end, en fait, c'est lui le perdant parce qu'il a fait. Il y a trois autres pilotes qui ont marqué plus de points que lui sur le week-end.
Il faut calculer, donc, être intelligent, voilà. Voilà.
Alors ce qu'il faut, c'est j'en ai parlé.
On te reprend après, Gilou.
Oui.
16.
On s'excuse, on sent que tu étais bien lancé, sur la ligne droite là. Hein. C'est,
on te reprend.
Au premier virage, au shot, là, on t'a stoppé là.
Ouais.
Il y avait...
Bon.
Alors donc, ouais. J'ai proposé qu'il y ait par exemple plus de points sur chaque manche.
On reparlera
afin
de ça.
Que le vainqueur de Grand Prix soit toujours gagnant par rapport au week-end. Quoi.
Voilà,
c'est tout.
Okay.
On verra bien la suite.
Bon, alors à tout à l'heure, parce que là, on va parler du Cross US.
Eh ben
après,
oui.
Le dernier après, hein, en
fin de mois.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
I'm waiting for my man. From my mind. split because you got no time to waste. I'm waiting for my man. Baby, don't you holler. Baby, don't you scream and shout.
Voilà Guy, après le championnat du monde, enfin le championnat d'Europe, hein, sergent d'Angilly, on va parler du championnat du monde d'Ice Race.
D'Ice Race.
Qui s'est terminé il n'y a pas longtemps.
Oui, à peu près une bonne semaine. Alors que on parlait du motocross, du Grand Prix d'Europe, championnat du monde de vitesse, tous les championnats commencent, débutent. Alors que c'est le championnat des courses sur glace est terminé.
Oui, c'est normal.
Est terminé, enfin normal, oui et non. Parce qu'il y a seulement 4 finales, alors qu'avant il y en avait 10 ou 12, parce que les épreuves se déroulaient quelquefois en Russie, parce qu'en Russie même les pilotes ne peuvent plus disputer les championnats du monde depuis la guerre en Ukraine, ça fait la 4e année hein, qu'ils sont absents, ils roulent chez eux par exemple, hein, mais pas...
Ils vont se faire un petit championnat entre eux là.
Entre eux, ouais. Enfin,
championnat de Russie.
Ouais, voilà. Ouais. Alors bizarrement, ce championnat de Russie, on avait les résultats grâce à un site hollandais et les Russes n'envoient plus les résultats. Alors on ne sait pas qui est champion de Russie. Enfin bref. Alors le championnat 2025 s'est déroulé sur 4 épreuves dans 2 villes, à Insel en Allemagne et 15 jours après en Hollande, Ereven. Avant, c'était à Seine, je crois que tu avais été une fois, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, course en glace, sport spectaculaire en soi, hein, parce que bon, dans les virages, ça tourne.
Il faut un peu décrire un petit peu pour les auditeurs qui n'ont jamais vu une course sur glace, hein, comment ça se passe, c'est 4 tours. Hein.
Oui, il y a 4 pilotes, dans le sens inverse d'une montre.
Oui. Anti-horaire, oui.
Voilà, et ils partent pour 4 tours. Une manche dure 60 secondes. Donc, pas le temps de panoter, parce que si tu commences à écrire... C'est fini, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, cette année, comme je te disais, pas de Russes, pas moins de spectacles, parce que les Russes, bon, ils sont au-dessus de tout le monde. Alors, ce qu'on peut voir arriver, c'est des Finlandais et des Suédois. Par exemple, à la première épreuve qui s'est déroulée, à la première finale qui s'est déroulée à Insel, c'est un Finlandais, Max Kuavula, qui remporte devant un Suédois, Niklas Svensson, et un troisième Finlandais, Inki Unku. Le champion du monde en titre, c'est Martin Arahiltunen, c'est un Suédois, mais de naissance finlandaise. Il remporte la finale 2 à Insel devant. Il y a un Hollandais, Jesper Iverda, qui se classe deuxième. Jesper Iverda, c'était un ancien pilote de Moto Grand Prix, mais Moto 3, pardon.
Ah oui.
Hein, il a roulé pendant un moment et puis bon.
Il s'est reconverti en
course sur glace.
En course sur glace.
Ouais,
c'est étonnant ça.
Ouais. Alors, finale 3, nous sommes en Hollande, et c'est Niklas Svensson qui remporte, c'est un Suédois bien sûr, devant Martin Altituen, le tenant du titre, et devant un autre Finlandais, Max Kuavela. Quatrième finale, et c'est encore Nicolas Svensson qui remporte. Alors, pour la petite histoire, l'année dernière, son père, Stefan Svensson, avait remporté la finale. C'était la première fois qu'il gagnait une finale après 40 ans de Grand Prix, hein, quand même. Hein.
Son père.
Ouais, mais il est toujours classé dans les bons, quoi. Hein. Alors, il était heureux comme tout. Et puis là, c'est son fils qui gagne les deux manches. Donc, au classement du championnat du monde, c'est Martin Altuinen, ouais, voilà, qui remporte avec 52 points devant Nicolas Svensson, 48. Donc, il y a 4 points de différence. Et un Finlandais, Max Kuavela. Donc, le championnat s'est terminé. Il y avait un championnat aussi d'Europe qui s'est déroulé en Pologne, mais par un temps printanier, la glace fondait, bien que c'était une piste artificielle, et alors, c'était un Tchèque qui avait remporté cette épreuve. Également a disparu un championnat par équipe. Il y avait les Autrichiens, les Russes, les Suédois, les Finlandais. Ouais, c'était un peu ça. Mais ça fait 2 ans ou 3 ans,
oui, à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Ouais, peut-être. Mais alors, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas beaucoup d'épreuves, étant donné que, par exemple, les faire en Suède, c'est possible, mais il faut remonter dans le nord. Après, il faut ramener le public. Mais bon, là, il y a eu les qualifs, ils faisaient quand même moins 20. Alors, rester 2 heures par moins 20.
Alors, ça se passe où sur un.
Un lac.
Sur un lac,
un lac,
ouais. Ça se passe sur un lac.
Ah ouais.
Et alors on ramène les publics sur le lac.
Ouais, enfin autour, hein, bien sûr.
Oui, autour du lac, mais. Et les pilotes sont sur le lac. Alors.
Ah ouais, sur le lac, ouais.
C'est incroyable, ça.
Mais quelquefois, c'était soit en Autriche et puis en Pologne, ils ont dû annuler parce que la glace, elle avait fondu. Ouais.
Tandis que là, de toute façon, en Hollande, c'est.
Artificiel.
C'est artificiel.
Ouais. Ouais. À Insel également, c'est artificiel. Donc voilà, maintenant rendez-vous en 2026. Alors le Suédois Ara Iltuen, quatrième titre
vraiment,
d'affilée.
C'est vraiment une discipline du nord de l'Europe. Hein, rien que les noms des pilotes, on comprend que, tout de suite, c'est pas espagnol ou italien.
Non, non, il n'y a aucune consonance italienne ou espagnole ou ce que tu veux. Quoi.
Voilà, merci Guy. On passe un morceau de musique, voilà. Et on se retrouve juste après.
Happiness is a woman you love till she goes on and on.
qui ont fêté les 50 ans du magazine Moto Verte avec Bertrand Salaville au téléphone.
Oui, bonjour Bertrand.
Oui, bonjour Guy.
Oui, alors, figure-toi qu'on a eu un peu de retard parce qu'on avait Gilou au téléphone et on a dû arracher le câble parce qu'il n'arrêtait pas de parler.
Forcément.
C'est incroyable, hein. Voilà. Donc, Bertrand Salaville, je présente, c'est le directeur de la rédaction dans les éditions La Rivière, des revues Moto Verte, MX, Enduro Moto, VTT, Bike, enfin bref, quand même 5 revues, c'est du boulot quand même comme rédacteur, non ?
Ouais, c'est un petit peu de travail, mais c'est beaucoup de passion et du développement autour de ces magazines, entre vélo, moto, c'est toujours... toujours passionnant à traiter, donc finalement le temps passe vite et puis on s'en remet assez facilement.
Voilà. Alors on va en parler du bouquin que tu as sorti sur les 50 ans de Moto Verte. Moto Verte qui a été créé et imaginé par Gilles Mallet. Pourtant à une époque il y a 50 ans c'était plus t'avais plein de revues de d'essais de vitesse, mais la Moto Verte n'apparaissait pas dans les kiosques encore.
Oui, c'est ça. En fait, la moto tout-terrain apparaissait un petit peu dans ce qui était les titres principaux, c'est-à-dire Moto Revue, Moto Journal.
Voilà.
Et puis Gilles Mallet, qui était un ancien journaliste de Moto Journal, faisait évidemment de la route et tout ça, mais avait découvert cette inspiration d'aller pratiquer la moto tout-terrain avec des modèles japonais notamment qui ont popularisé un petit peu la moto tout terrain. Et puis il s'est dit, tiens, là il y a vraiment un élan, il y a vraiment une vague qui est en train de naître au milieu des années 70 pour aller un petit peu voir en dehors des surfaces bitumées ce qui se passait. Les trails sont arrivés, puis il s'est dit, tiens, on va lancer une revue, il doit y avoir un public pour ça, et puis ça va se développer forcément. Donc c'est comme ça qu'est né en 1974 Moto Verte, qui a été proposée à Patrick Casanova aux éditions La Rivière.
Voilà.
Et puis ça a lancé véritablement la mode et tout l'enthousiasme qui est né autour de la moto tout-terrain au milieu des années 70.
Parce qu'à l'époque, il y a 50 ans, c'était plutôt... le cross qui dominait un peu la moto verte, hein, ensuite le trial.
En fait, c'était pas forcément le cross en tous les cas pour la France. En France, c'était vraiment le trial et le trail qui étaient très à la mode à l'époque en 74-75. Le motocross, c'était une discipline américaine. Enfin, qui est né en Angleterre, mais qui était très développé aux États-Unis. Voilà. Donc, on avait beaucoup de trial, on avait beaucoup de trail qui sont apparus avec la DTMX, la XT500 dès le milieu des années 70. Et puis, petit à petit, il y a l'enduro aussi qui s'est développé avec des motos qui étaient des trails, mais qui pouvaient rouler dans les chemins à bonne vitesse. Et puis, le motocross, petit à petit, on l'a importé des États-Unis et ça s'est développé énormément.
Alors, pour commémorer ces 50 ans, tu as pris ton stylo et ta machine, ordinateur, et tu as sorti un bouquin de 240 pages quand même sur l'historique de Moto Verte.
Alors j'interviens, il est beau, hein. C'est un très beau bouquin, un très beau livre. Ouais. Hein.
Bah, j'ai pris mon courage à deux mains, surtout parce que je m'occupe de Moto Verte depuis 29 ans.
Oui.
Mais bon, il a fallu aller plonger un petit peu dans les sous-sols des éditions La Rivière,
dans les archives
pour aller retrouver un petit peu tout ça. Et puis il fallait le faire de manière un petit peu organisée, parce que on peut faire un bouquin de 1000 pages, il y a pas de problème. On a à la fois de la matière photo et puis il y a tellement de choses à raconter, donc c'était une source inépuisable, hein, Moto Verte. Mais donc du coup on a choisi de le structurer en parlant des motos qui ont fait l'histoire de la Moto Verte, en parlant des hommes qui ont inspiré toute cette histoire, et puis en parlant des événements qui ont développé la popularité de la moto tout-terrain. Voilà, c'est ces trois catégories en fonction des décennies depuis 1974 qui sont représentées dans ce livre.
Donc, malgré tout, un travail fastidieux, parce que bon, même si on retrouve des anciennes revues, de regrouper ça dans un magnifique album.
Il a fallu faire du tri.
Faire un choix aussi des photos, oui.
Ouais, un choix des photos, replonger dans les archives, retrouver des choses. Alors, il y a des choses qui ont été publiées, bien évidemment, parce que ça permet aussi aux gens de revivre un petit peu ce qu'ils ont vu dans les vieux motos vertes de l'époque, et puis retrouver quelques photos inédites, sélectionner un petit peu ce qui s'est dit à l'époque, essayer de retrouver des dessins aussi, retrouver tout ce type de choses de manière à représenter vraiment toute l'évolution qu'il y a pu y avoir. Motocross, trial, enduro, rallye, super motard même, sur tout ce qui s'est passé au fil des années depuis 1974.
Bertrand, on pourrait plus appeler un magazine, en 2025, on pourrait plus appeler un magazine moto verte avec l'écologie maintenant, parce que ça fait moto verte, ça fait écolo.
Ah, c'est très écolo la moto tout le temps.
Alors que maintenant, la moto, on n'a plus le droit de rien faire.
Ah, on essaye de préserver tout ça, de rouler quand même. Il y a encore quand même des possibilités. Il faut lutter. Mais depuis, vous savez, en 1974, dans le premier numéro de Moto Verte, il y avait déjà à l'époque un dossier qui s'occupait de parler de l'environnement et des difficultés de la moto tout-terrain pour aller rouler dans les chemins.
Ah oui, en effet.
Déjà en 1974, c'était un sujet d'actualité. Donc en fait, depuis 1974, on n'a pas cessé, au fil des numéros, chaque année, de parler des difficultés du mouvement écologiste qui s'attaquait à la moto, des défenses qu'on pouvait mettre en place pour continuer à rouler, etc. Un serpent, un petit peu, ce problème lié à la pratique de la moto tout-terrain dans les chemins depuis 1974. Et on continue aujourd'hui quand même à pouvoir rouler, alors moins avant parce que tout devient plus compliqué évidemment, mais il y a des zones qui sont préservées, il y a la Fédération Française de Moto qui fait un travail considérable pour acheter des terrains de motocross et pour sécuriser la pratique de la moto tout terrain. Il y a 25 sites de motocross aujourd'hui qui appartiennent à la Fédération, ça veut dire que quoi qu'il arrive on pourra toujours rouler sur ces terrains-là, donc il y a tout ce travail qui est mis en place, on roule de manière différente mais on continue à rouler heureusement.
Si on se souvient de l'enduro, il y a 2 ans, là, c'était en Corrèze, je ne me souviens plus le nom de l'enduro, où des intransigeants écolos avaient modifié le parcours, enlevé les flèches et les pilotes se sont retrouvés dans des endroits impossibles.
C'est ça, il y a des résistances un petit peu partout et puis on ne peut pas dire que les écologistes soient très très tolérants, donc de radicalité de leur part, ils vont tout interdire, donc c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Dans chaque région, il y a des gens qui sont dévoués à ça, qui font les choses très incroyables pour pouvoir continuer à organiser des choses, des enduros, des compétitions, donc c'est un combat de tous les instants et ça dure depuis 50 ans.
Et de tous les jours, je pense que ce sera tous les jours.
Hein, c'est, ça. C'est ça.
D'accord. Bertrand, tu disais que c'est depuis 29 ans que tu es rédacteur à Moto Verte.
Oui, c'est
tu,
ça.
Tu as commencé comment, en faisant des reportages pour Moto Verte ou tu avais déjà...
Je travaillais dans la moto de 8 ans auparavant. J'ai fait une école de journalisme à Paris. Ensuite, je suis sorti de l'école où j'ai eu des propositions différentes pour travailler. Alors, j'ai collaboré à France Moto, qui était le magazine
française
de moto à l'époque, quand il sortait même en kiosque. Ça, c'était à la fin des années 80. Et puis, sortant de mon école de journalisme, j'ai eu des propositions pour travailler à Moto Journal et à Moto Vert. Alors, j'ai travaillé dans un premier temps à Moto Journal. Et ensuite, au bout de 6 ans, j'ai été contacté par les éditions La Rivière pour prendre la direction de Moto Verte. Voilà. J'ai été très proche de beaucoup de gens qui m'ont initié un petit peu à tout cet environnement. J'ai travaillé un peu pour des hors-séries VSD aussi moto qui ont été créées à une époque.
D'accord.
Avec un autre journaliste emblématique de la moto qui s'appelle Claude de la Chapelle était le rédacteur en chef de Moto 1, qui travaillait avec Coluche et qui a lancé les hors-séries VSD moto. Donc voilà, et qui ensuite a été à la tête de France Moto. Donc c'est lui qui m'a fait travailler beaucoup sur ces titres-là avant de travailler sur Moto Verte.
D'accord.
Qu'est-ce qui fait que le magazine Moto Verte est encore en rédaction? On peut encore l'acheter c'est tous les mois? Parce que la presse papier vit des heures un peu noires en ce moment.
Alors la presse papier vit des heures compliquées, c'est vrai, depuis 2006 on va dire, donc ça fait un petit moment maintenant, c'est presque 20 ans. En fait c'est depuis l'arrivée d'Internet et le développement d'Internet un peu partout. C'est-à-dire qu'on a Internet a permis aux gens d'avoir accès à une information gratuite. Donc forcément, ça a abîmé la presse écrite, qui est payante, qui reste payante. C'est son modèle économique qui est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Ça coûte cher, le papier. Ça coûte cher de mettre des magazines dans les kiosques. Ça coûte cher de partir en reportage, de payer des journalistes pour ça. Donc le moyen de rentabiliser tout ça, c'est évidemment de faire payer le magazine, en plus d'avoir de la publicité. Mais Internet a abîmé considérablement toute la presse écrite, et pas que la presse spécialisée moto ou autre, mais toute la presse écrite. Donc il a fallu se rénover un petit peu, il a fallu trouver des axes un peu différents. Alors Motovert, c'est un magazine qui est dans les kiosques, toujours, évidemment. C'est aussi un site Internet, motovert.com, qui est 7 jours sur 7, diffuse de l'information, est présent sur tous les terrains, sur l'enduro, le cross, un peu partout. Donc on a développé aussi ce modèle digital Motovert qui est disponible partout. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une activité qui reste quand même importante. Et donc on a un modèle même qui est semi-payant sur Internet, mais de manière très faible, parce que en payant 2,99€ par mois, vous avez accès à toutes les informations de l'actualité 7 jours sur 7 avec des reportages inédits. Mais surtout, vous avez accès aussi à toutes les archives de Motovert depuis 1974. C'est-à-dire que quelqu'un qui paye 2,99€ par mois peut consulter 600 numéros de Motovert gratuitement sur Internet, en feuilletant tous les numéros, ce qu'on a en archive depuis le premier numéro créé par Gilles.
Est-ce que ça nous intéresse? Donc, voilà. Donc, comme on fait de la radio, c'est que des fois c'est intéressant d'aller rechercher les podiums et
les trophées des pilotes. Podiums, on peut aller relire les articles, voir les photos. Tous les numéros sont disponibles dans les archives de Motovert via cet abonnement à 2,99€. Donc je pense que c'est assez intéressant pour ceux qui ont vécu l'histoire de la moto tout-terrain et ceux qui ont envie de revivre en feuilletant ces magazines sur le web.
En effet, parce que je possède les premiers numéros, tu vois. Que Motovert, moi, ça sortait, je sais pas, d'une autre planète, quoi, parce que on voyait rien dans les revues, que ça soit aussi à Moto Revue à l'époque, Moto Journal, je ne sais pas s'il était déjà créé ou pas.
Il y avait Moto Journal, oui, en 74,
Et tu dis, ça fait 29 ans que tu es rédacteur, et tu avais remplacé qui? C'était Breton avant toi ou...
Alors, il y avait Gilles Mallet est resté patron créateur, mais il est vite parti un petit peu en province. Donc, il gérait son magazine de province. Et moi j'ai remplacé Patrick Macias.
Ah oui, Macias, oui.
Qui était aussi un ancien de Moto Verte, Moto Revue, qui était photographe et qui est devenu en chef. Et voilà, je l'ai remplacé à cette époque en 1996.
Ah d'accord, ok.
Oui.
Écoute, Bertrand, on est... très content de t'avoir eu au téléphone, parce que normalement tu devais passer bien avant, mais pour d'autres raisons, on t'a pris ici en avril. Alors je rappelle, Moto Verte, 240 pages aux éditions Casa, pour 44,95€, vous avez 50 ans d'histoire de la Moto Verte.
Et c'est un beau livre. Hein.
Et c'est un beau livre.
C'est un livre qui est disponible partout, Fnac, Carrefour, et qui est disponible également sur le site Boutique La Rivière sur Internet. On peut le commander en VPC, mais sinon il suffit d'aller chez un libraire, de le commander. Ou d'aller à la Fnac. Voilà, c'est un bouquin qui est disponible partout et qui va rester longtemps parce que c'est un bouquin qui va durer dans le temps.
Oui, alors. Tu vas peut-être préparer, je ne sais pas, les 80 ans ou les 100 ans, non?
Alors là, ça paraît un petit peu loin, mais je travaille sur un autre livre en ce moment qui va sortir en fin d'année, d'ailleurs,
mais qui
concernera plus le secteur du trail, l'histoire du trail.
Ah d'accord, ok. Ah ben écoute, on fera attention à la sortie, puis on t'appellera, tiens, pour en parler à la radio.
Avec plaisir.
Bertrand, on te souhaite un excellent week-end et merci d'avoir répondu à notre appel, à ce petit interview qu'on a pu faire.
Merci à vous.
Ok.
Et très bon week-end.
Merci Bertrand et bon anniversaire. Merci. Bon voilà, on retrouve Gilou au téléphone.
Je suis là.
Rebonjour Gilou.
Rebonjour, rebonjour à tous, tous les passionnés.
Bon, oui, tous les passionnés de tout terrain et d'off-road. Effectivement, ouais. Bon, tu as eu au milieu d'émission et tu voudrais refaire un petit rectificatif sur ce que tu as dit.
Juste un petit rectificatif, parce que tout à l'heure, on parlait de Saint-Jean d'Angély en disant qu'on a parlé aussi de Maxime Renaud. Mais Maxime Renaud, c'est pas Saint-Jean qui s'est blessé, hein, c'est en Sardaigne. Ce Grand Prix de Sardaigne, il s'est blessé en première manche et il a pas couru en deuxième manche, Maxime Renaud. Et donc, mais là, ce week-end, il est un Trentino, donc c'est bien reparti. Donc, c'est la première chose. Je voulais préciser également que ce week-end, on a Lotte Van Drunen, la championne du monde féminine, qui va faire la course MX2 à Trentino, donc elle court avec les garçons. Voilà.
Comme Mathis Livia Sebalin. Il y a quelques temps.
Pardon ?
Comme Livia Lancelot, elle avait roulé aussi en MX2.
Voilà, tout à fait. Mais là, il y a beaucoup de pilotes en MX2, donc on va voir ce qu'elle va faire comme résultat. Parce que quand on n'a que 14 ou 15 pilotes derrière la grille et qu'elle marque des points, bon, ben, si elle fait dernière, elle marque des points. Mais bon, on va voir là. Mathis Valin est toujours absent en MX2, le français, parce qu'il est blessé, donc il sera absent à Trentino. Enfin, on vient d'apprendre. Il y a Keroli qui sera présent sur ce Grand Prix. Il fait une petite pige pour Ducati, il ne faut pas s'attendre non plus à un résultat probant pour Antonio Keroli. Enfin, il va participer au Grand Prix MXGP ce week-end à Trentino. Enfin, on vient d'apprendre que malheureusement, Adrien Petit, qui était le leader du championnat d'Europe, le France en 250, s'est cassé la clavicule aux essais. Donc, voilà.
Aïe.
Les
hôpitaux sont pleins.
Voilà. Et en fait, Lévi Tonley, c'est le fils de Ben Tonley, lui, et il court en 125 et s'est fracturé la jambe, le fils de Ben Tonley. Donc malheureusement, voilà, c'est des nouvelles qu'on vient d'apprendre en direct de Trentino. Voilà, bon, on peut passer aux US.
Tu parlais d'Antonio Keroli, il devait rouler en Sardaigne, et puis il n'a pas roulé.
Alors en Sardaigne, tu sais, avec Antonio, maintenant, il fait un peu ce qu'il veut, c'est surtout de la communication. Ouais. Hein. Il est au départ à Trentino, et voilà. Et puis en plus, le prochain Grand Prix, ça sera le Grand Prix de Suisse, et alors, à signaler que le Grand Prix se déroulera lundi, hein, parce que c'est le lundi de Pâques, il se déroulera lundi de Pâques, lundi 21 avril.
Ne pas oublier.
Les essais, ça sera le samedi et le Grand Prix le lundi. Voilà, parce que le dimanche de Pâques, on ne court pas, on ne fait pas de sport en Suisse.
Ouais, c'est les Suisses. Hein.
C'est les Suisses.
C'est à cause des cloches.
À cause de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le Grand Prix.
C'est le chocolat, lundi. Forcément. La Suisse, écoute.
Et les montres.
Mais ils sont bons en plus, nos Suisses, ils sont excellents. Nos petits Suisses. Bref, qu'est-ce que je voulais. Oui, on parle des US alors.
Oui, des US, avec les derniers classements, les pilotes français.
Alors, 3 minutes, oui.
3 minutes. Donc, en 450, la catégorie reine, on a le leader, c'est Cooper Webb, 256 points. C'est lui qui est actuellement donc en tête devant Chase Sexton, donc les Ricains aussi, avec 241 points. Entre les deux, il y a 15 points d'écart. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5 supercross avec celui de cette nuit. Donc, 5 supercross. Il faut savoir qu'entre le premier et le premier marque 25 points, le deuxième 22 points. Donc, il y a 3 points d'écart. Donc, on peut presque dire que Chase Sexton, il faut qu'il gagne les derniers, tous les supercross. Et puis, comme ça, il sera champion sûr de supercross parce qu'il y a 15 points d'écart. Donc, 3 points de différence sur 5 épreuves. Ça fait 3 fois 5, 15. Hop. Ça fait plus les 15 points. Voilà. Donc, il faut que Sexton gagne tout. Mais à moins que Cooper Webb fasse une erreur. Le problème, c'est que Cooper Webb est très, très, très régulier. Et c'est difficile de prendre 15 points comme ça sur ses dernières courses. Voilà. Ça, c'est pour les 450. Bon, on a un Français, c'est Dylan Ferrandis. Il est actuellement 11e du championnat. C'est beaucoup plus difficile. Et maintenant, il est sur un team privé. Et c'est beaucoup plus difficile. Ça a toujours été plus difficile en 450 pour le Supercross pour Dylan. Il a été champion en 250. Mais la catégorie reine, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est pour la catégorie 450. En 250, alors cette nuit, on a un championnat, c'est le Showdown, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire qu'on réunit les deux côtes, Est et Ouest.
Ah ouais, d'accord.
C'est-à-dire qu'on a un super cross 250 qui réunit les top pilotes des deux côtes. Et donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer parce qu'on a d'un côté Aiden Diggen,
qui est le champion américain qui se dirige vers un titre sur la côte ouest, et face à Tom Vial. Tom Vial qui le week-end dernier, c'était de la gadoue, mais alors une bouillasse.
Ah ouais, c'est vrai.
Le Supercross, voilà, ça s'appelait Supercross, mais en fait c'était un bain de boue, quoi, dont le seul but c'était surtout de ne pas tomber. Malheureusement, Tom, c'est ce qu'il a fait, et la moto était détruite, il pouvait jamais pu repartir, donc il a marqué 0 point. Il était leader du championnat, et ben du coup il s'est fait rattraper par un américain, Seth Hamaker, et ils sont tous les deux co-leaders avec 99 points. Celui qui a gagné l'épreuve, c'était Chance Imas. Alors là, c'est un très bon, c'est un espoir américain, et il a remporté du coup dans la boue son premier Supercross. Bon, c'est une victoire un peu spéciale, même en 450 d'ailleurs, c'était Aaron Plessinger qui avait gagné dans la boue. C'est pas des pilotes, Aaron Plessinger à la régulière, il a beaucoup de difficultés pour gagner un Supercross sur un terrain pas pris par la boue, et Imas, c'est sa première victoire, mais lui c'est un jeune pilote, donc c'est l'avenir qui dira si c'était un bon pilote ou si c'est une victoire qui était comme ça. Je pense qu'on va reparler lui de Chance Imas, parce que il a quand même marqué des esprits avec des courses, notamment en Undor, hein, lors de championnat de motocross. Donc voilà, si tu veux, en 250, on a Tom Vial ce soir qui va courir. Et puis en 450, Supercross, on aura Dylan Ferrandis. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des pilotes dans toutes les catégories des Français. Bon, j'ai un doute pour que Dylan gagne ce soir en 450. Hein. Mais par contre, Tom Vial, lui, il peut gagner en 250. Hein. Oui, Tom, qu'il est déjà champion de Supercross en 250, Tom. Donc voilà, c'est au niveau américain. Il nous reste donc cette nuit, c'est la course de Philadelphia. Hein, okay. Je disais, le 250 c'est le Showdown, ouais. Et puis c'est la 13e épreuve, il y en a 17, eh ben, donc voilà.
Okay, Gilou. Eh ben, tu entends là le générique de fin ?
Eh bien voilà.
Oui, voilà,
eh ben,
voilà, c'est la fin de l'émission. Voilà.
et on n'a pas parlé de Sid Carcross.
Bah, en plus, on en parlera le mois prochain, peut-être. Alors, peut-être.
Et des championnats de ligue.
Merci Gilou. Voilà.
Okay. Gilou, merci. L'année prochaine. Au mois prochain.
Salut, un bon dimanche. Voilà.
Ok, à vous voilà. Tous aussi. Ciao les gars.
Salut.
Le magazine
salut.
De la moto, ça se termine sur Campus. Voilà, c'était le spécial off-road tout-terrain aujourd'hui avec Guy Pilarzik. Voilà. Un bon dimanche, Guy.
Un bon dimanche à tous.
Voilà, très bien. Et puis, et merci à notre technicien Laurent pour cette technique au millimètre. Salut, ciao, bye.